l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Et ce matin, actualité des expositions d'histoire. Séverine Yatar et Séverine Cassard nous conduisent dans une exposition sur les nouveaux regards que l'on peut porter sur le Front populaire. Il y a 80 ans, à l'automne 1936, les espoirs nés au printemps de l'arrivée du Front populaire au pouvoir commençaient d'être rafraîchis parfois, par exemple par le déclenchement de la guerre d'Espagne et l'engagement de l'Allemagne nazie aux côtés de Franco, par les conséquences des grèves de l'été ou encore par les dissensions internes à ce même Front populaire. Séverine Yatar et Séverine Cassard vont vous conduire ce matin dans l'exposition du Musée de l'Histoire vivante de Montreuil, en région parisienne, Nouveau regard sur le Front populaire, une exposition qui fait le point justement sur les dernières recherches d'historiens sur cette période. Mais auparavant, comme chaque vendredi, nous débutons cette émission par un petit précis d'histoire à l'usage des candidats avec l'historienne Pauline Peretz.
105. Allez-y madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
François Mitterrand.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand, est-ce qu'on fait dans les épargnes ?
Non.
Oui, mais pour les recompter,
non,
après.
Ça,
on laisse un et on met plus lourd. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Bonjour Pauline Peretz.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, vous êtes rédacteur en chef de la revue en ligne La Vie des Idées et grande spécialiste de l'histoire des États-Unis. Et quand je vous ai dit sur quoi pouvez-vous plancher sur cette question, un petit précis d'histoire à l'usage des candidats, vous avez pensé à ceci.
Le citoyen législateur, sagesse ou inconstance ? Que pouvons-nous lorsque les élus nous déçoivent, lorsqu'ils nous semblent trop frileux, sous influence, ou qu'ils ne font pas ce que nous attendons d'eux? La plupart d'entre nous attendent les prochaines élections pour sanctionner les représentants qui les ont déçus et voter pour un autre candidat. Mais dans les systèmes politiques où existent des formes de démocratie directe, le citoyen peut se faire législateur. Depuis le début du XXe siècle, les citoyens américains peuvent, dans certains États, utiliser le droit d'initiative. Ce mécanisme a été imaginé par les progressistes pour redonner au peuple le pouvoir qui lui aurait été confisqué par des assemblées corrompues. La Californie est un de ces États où les citoyens peuvent concevoir un texte de loi et le mettre au vote. Ce mécanisme d'initiative populaire a notamment permis, en 1978, l'adoption, la proposition 13, qui a donné l'impulsion à un mouvement national de résistance à la fiscalité, ou, plus tard, l'adoption de la proposition 187, qui a privé les immigrés clandestins de leur accès à l'éducation et à l'aide sociale. L'initiative est-elle donc l'expression privilégiée de citoyens en colère contre un État jugé excessivement libéral ? Pas nécessairement. Au début des années 70, la Californie n'est pas encore cet État du populisme revanchard dont beaucoup de commentateurs politiques et d'historiens ont ultérieurement imposé l'image. Après quelques décennies de sommeil, l'initiative y renaît lorsque s'achève un cycle politique dominé par un exécutif fort, rappelons notamment le gouverneur Ronald Reagan. L'initiative renaît aussi parce qu'apparaissent de nouvelles questions qui divisent les élus, la protection de l'environnement, le gel du nucléaire, la réforme de la fiscalité ou la moralisation de la vie politique qui m'intéresse ici. En 1973, le pays est secoué par le scandale du Watergate, qui est aussi l'occasion de révéler de nombreux scandales financiers. Au Congrès, des textes de loi sont introduits pour mieux encadrer les campagnes politiques. En Californie, deux organisations citoyennes veulent moraliser la vie politique locale en, je les cite, « nettoyant le gouvernement ». La première, le People's Lobby, s'engage d'emblée dans la voie de l'initiative. Elle ne croit pas à la détermination des élus à mener à bien une telle réforme. La seconde, Common Cause, veut laisser une chance à la législature. Mais face au blocage dans les assemblées, elle se laisse convaincre que c'est aux citoyens de conduire cette bataille. En septembre 73, les deux organisations font alliance pour rédiger le texte d'initiative qui prévoit la limitation des dépenses de campagne, la création d'une commission de contrôle des comptes et l'encadrement des activités des lobbyistes. Pour que le gouverneur autorise la mise au vote populaire de cette initiative, ses auteurs doivent obtenir 320 000 signatures d'électeurs. La collecte de ces signatures est la démonstration d'une force politique, mais aussi d'une capacité d'organisation. Les volontaires vont voir leurs voisins, leurs collègues, leurs amis pour les convaincre de signer le texte. Le People's Lobby dispose des tables devant tous les centres commerciaux et harangue les passants pour leur demander de signer. Vous voulez arrêter la corruption en politique? Vous voulez mettre un terme aux dépenses excessives de Sacramento? Le Political Reform Act y contribuera. Signez-le. Les volontaires récoltent 500 000 signatures. L'initiative est donc qualifiée et le texte va être mis au vote des électeurs en juin 1974. Le citoyen californien est invité à se prononcer dans un vote de nature référendaire. Veut-il, oui ou non, que ce texte devienne loi? Le People's Lobby et Common Cause organisent sur le terrain une véritable campagne politique pour convaincre leurs concitoyens d'aller voter. Ils martèlent leurs convictions. Proposition 9, c'est le nom de cette initiative, est un effort pour mettre un terme au secret au sein du gouvernement et pour remettre le gouvernement aux mains du peuple. Et ils convainquent massivement. Le 4 juin 1974, 90% des électeurs se présentent aux urnes. C'est énorme, aux États-Unis encore plus qu'ailleurs. 70% de ces électeurs votent en faveur de ce texte. Grâce à un soutien populaire très fort, le Political Reform Act est donc adopté et régit dès lors la vie politique en Californie. À chaque étape de l'initiative, rédaction, qualification, vote, le corps citoyen s'est élargi. La mobilisation sociale s'est muée en force politique. Les citoyens ont pris conscience de leur responsabilité dans la détermination de la politique de l'État. L'initiative a également permis de contourner le blocage des institutions représentatives. A-t-elle pour autant contribué à éduquer les électeurs? Ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas cela qui amène aujourd'hui à douter de la légitimité de l'initiative. Depuis la fin des années 70, la collecte de signatures est réalisée par des cabinets qui facturent toujours plus cher leurs services. Seuls les groupes d'intérêt organisés disposent des millions de dollars nécessaires à cette collecte. Dans ces conditions, est-ce vraiment la voix du peuple que fait entendre l'initiative? Il va falloir regarder de près quelles mesures seront adoptées en Californie et dans d'autres États le 8 novembre prochain.
Merci beaucoup de cette précision. On ne connaissait pas effectivement ce travail particulier autour du vote en Californie avec cette question d'initiative. Merci Pauline Pérest de nous l'avoir rappelé pour ce petit précis d'histoire à l'usage des candidats.
Les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons, socialistes et communistes, de travailler sans faiblir et sans nous laisser rebuter par aucun obstacle pour la cause de l'unité prolétarienne que je reste à nous.
De l'exposition 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire, en compagnie d'Éric Lafond, directeur du musée de l'histoire vivante de Montreuil.
On a demandé aux représentantes et représentants des partis politiques, confédérations syndicales et associations de choisir une photo qui pour elle ou pour lui représente le plus ou le mieux le Front populaire. Et on leur a demandé de se livrer à un exercice très compliqué pour elles et eux. Je suis un peu méchant. Hein. Et au-delà d'un tweet de 180 signes, de faire un texte de 1500 signes.
C'est difficile, hein, ça.
C'est beaucoup plus. C'est 10 fois plus important qu'un tweet. Voilà. Donc, et 1500 signes, de commenter cette image-là. Donc, on les a classés par ordre alphabétique, de Nathalie Arthaud jusqu'à Verrier de la CGTFO. Et on a mis au même format leur petit panneau. Et ça, c'est une originalité, j'ai envie de dire, de l'exposition. Nouvelles images, nouveaux regards. On voulait confronter le regard de nous, les historiens et commissaires de l'exposition. On voulait confronter aussi la mémoire, l'histoire, le regard des autres, des uns et des autres. Donc on a des photos qui ne nous surprennent pas. Par exemple, que Jean-Christophe Commandalis choisisse la photo du 14 juillet 1936 avec la tribune Léon Blum. Voilà, c'est pas très étonnant. On a plutôt l'extrême gauche anarchiste ou trotskiste qui choisit plutôt des grèves, des manifestations.
Olivier
Besancenot, 1937. Olivier Besancenot, il a pris une photographie qu'on connaissait un petit peu quand même. On est dans ce qui prime, l'acteur social du moment, la classe ouvrière, les ouvriers en grève. Voilà. Pour Parti Socialiste, c'est le président du Conseil, parce que c'est quand même, dans l'histoire du Parti Socialiste, la première fois qu'un socialiste va diriger un Conseil de la République. Et quand on se replace dans le contexte de l'époque, ce n'est pas rien. Vous savez, on le rappelle souvent, mais il faut toujours le rappeler. Léon Blum est accueilli à la Chambre par l'intervention d'un député de droite qu'on nous dit aujourd'hui d'extrême droite, Xavier Vallat, hein, pour rappeler le fait que Léon Blum est un juif. Voilà. Vous voyez, il y a des balles, on s'amuse, il y a la fête, il y a les grèves, mais il y a une France avec des lourdeurs, des grosses lourdeurs.
Avec une extrême droite puissante.
Des violences.
Et des violences fascistes.
Voilà, fascistes, violentes. Après, les autres photographies, on est, bon, Françoise Dumont, qui est la présidente de la Ligue des droits de l'homme, donc une femme, elle choisit Victor Bache, qui est la grande figure de l'époque. Et qui quand même aussi, on le rappelle dans le cadre de l'exposition, un des initiateurs de ce rassemblement des gauches, de ces gauches-là qui en 36, dès 1934 se parlent, et en juillet 34 font un pacte pour les socialistes et les communistes, mais 6 mois auparavant, on se déteste, on s'affronte même dans les rues. Mélenchon, lui, a choisi la photo de Willy Ronis, qui est Rose Zehner. Donc ça, c'est intéressant aussi, le rôle des femmes.
C'est pas la première fois, d'ailleurs, que Mélenchon, fait référence justement à des femmes.
Oui, pour un homme politique qui affiche, hein, je parle d'image, hein, l'image de Jean-Luc Mélenchon, on va pas parler de féminité quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, on parle plutôt de machisme ou de virilité. Donc, d'un contenu intellectuel fort, profond, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup au-delà des tweets, et donc, et lui, il a choisi cette personnalité forte d'une femme qui harangue la foule, hein, on peut y voir, soit ça dépend quelle culture, auquel on peut faire référence. Certains y verraient Lénine, moi j'y vois plutôt Jean Jaurès, Pressing-Gervais, 1913, cette façon de captiver et de capturer l'assemblée. L'attention et l'assemblée. On a cette femme qui harangue là. Et la photo est statique, contrairement à l'image filmique, mais là on voit bien le mouvement. Bon, alors c'est Willy Ronis qui fait la photo, c'est pas un photographe amateur. Il y a tout ça voilà, qui est assez intéressant. Alors, là, en face, nous, on a monté ce qu'on appelle un cadrage, c'est-à-dire un assemblage de photographies, parfois connues, parfois peu connues, mais jamais rassemblées telles qu'on vous les présente ici. Voilà, notamment ces deux-là, hein, de Gaston Paris, le mineur qui lève le poing et la petite fille qui lève le poing. Donc on les a mis dans cette diagonale pour faire parler de l'héritage, du passage de relais. Hein, on a à la fois la dimension sociale avec un mineur qui représente la classe ouvrière de l'époque. Hein, le mineur, c'est quand même la figure emblématique dans cette époque-là. Et puis la petite fille hein, qui lève le poing. Puis derrière, on reconnaît la Marseillaise de Rude, celle que l'on peut voir. Voilà. Donc on est dans une photographie qui exprime toute la culture et tout le message politique du Front populaire, c'est-à-dire à la fois la dimension de la République sociale, démocratique, universelle, qui demeure à construire, qui est un horizon, voilà, et les acquis de la République. La République, c'est 1792, la Première République, c'est la Marseillaise, c'est la Nation, c'est la France. Et la gauche française, y compris avec les communistes à cette époque-là, s'associe contre le fascisme, proclamer la défense de la République.
Et c'est aussi Éric Lafont à travers ces 5 photos. On voit aussi alors les acteurs que vous, peut-être, vous avez valorisés dans cette exposition. Donc il y a les enfants, il y a les femmes, et puis il y a les étrangers, voilà, dont on parle assez rarement, finalement, quand on parle de Front populaire.
Alors là, on a repris Daniel Tartakovsky et Michel Margueras dans un ouvrage paru en 2006, pour l'anniversaire encore du Front populaire, abordait ces trois thèmes. Donc on est dans une théâtralité, dans un gestuel, dans une symbolique Front populaire qui veut donner un horizon. Donc montrer justement cette jeunesse, via l'enfant, et puis beaucoup, beaucoup de jeunes, vous allez voir dans la salle aussi consacrée aux photos de Pierre Jamais, on montre une France dynamique, une gauche dynamique, qui porteuse d'avenir. Dans une France qui était dirigée par une droite très vieille, très ancienne, et qui est en plus minée par de la nostalgie de l'extrême droite, et voilà. Même si le fascisme est quand même une dynamique très jeune. Voilà. Il y a une contradiction. Bah, c'est pour ça que la droite française, heureusement pour nous, a hésité. La droite française, majoritairement, c'est ni fascisme ni communisme. C'est-à-dire les deux idéologies qui encadrent et qui emmènent avec eux beaucoup de la jeunesse française, ou même européenne ou mondiale. Donc là, ouais. Donc là, on a associé cette petite française avec ce petit Tunisien. Donc après, avec notre histoire à nous, hein, les Françaises et les Français, compliquée, avec l'usage des termes, immigrés, indigènes de l'empire colonial, étrangers, tout ça est très compliqué. Et donc là, effectivement, on voulait montrer cette participation à Paris d'Algériens, principalement et Tunisiens, aux festivités du Front populaire. Après, vous pénétrez dans une grande salle, un grand espace qui s'appelle « Dire et faire la politique ». Alors, ce qu'on voulait montrer là, c'est surtout tout ce qu'on appelle aujourd'hui des logos, des sigles, etc. Redonner des visages aux leaders politiques et montrer que 1936, c'est depuis maintenant un peu moins de 10 ans, la guerre des images. Hein, on a des talents, l'extrême droite comme l'extrême gauche, qui s'expriment en couverture de magazines. On a des photographes, on a des montages photos, on rentre dans ce que nous maintenant, c'est la palissade ou quelque chose de quotidien, une société de l'image. Voilà.
Et ça, c'est dû, Éric Lafond, aussi à une modernisation des technologies,
oui,
justement,
de
savoir-faire, en fait, de lithographie, d'imprimerie.
Oui, les imprimeries. Alors, vu, par exemple, le magazine de Lucien Vogel fait un numéro spécial pour expliquer ces nouveaux procédés d'imprimerie. Voilà. Vous avez aussi une nouvelle technique photographique, avec une nouvelle pellicule, de nouveaux appareils, beaucoup plus légers, avec un rendu, une possibilité de l'instantané, hein, ce que l'appelle Cartier-Bresson ou Capa, l'instantané, prendre immédiatement la photo de ce que vous pouvez voir. Et puis il y a une troisième révolution technique, c'est la révolution du son. Pour la première fois, les Françaises et les Français vont entendre leurs hommes politiques à la radio.
C'est pour ça qu'on a des archives aussi.
Et voilà, et c'est pour ça qu'on a des archives. Alors, Jean Vigreux, récemment, dans son bouquin qui vient de paraître, là, chez Talandier, rappelle que les hommes politiques ne savent pas encore utiliser ça, la radio. Donc, ils font des disques, ils se tiennent debout, alors qu'il n'y a pas dit, on ne les filme pas, hein, ils se tiennent debout, et puis ils font un discours comme s'ils étaient dans un meeting, etc. Voilà, on fait parler quelques femmes quand même. Alors qu'elles n'ont pas le droit de se présenter. Enfin, si, elles peuvent se présenter, mais elles ne seront pas élues. Donc, on entend Cécile Brunschvig, on entend Suzanne Lacor. Alors, ces archives montrent bien que la technologie du son est bonne, hein, parce qu'on entend bien, quoi. C'est très audible, très intéressant. Et puis, le disque, avec le disque 78 tours, la démocratisation du fait qu'il y a beaucoup plus de postes de TSF qui rentrent dans les foyers. Puis, le cinéma est présent dans les villes, on fait beaucoup de projections, et les partis politiques, les confédérations syndicales, principalement la CGT, diffusent beaucoup d'images.
Ils vont servir comme outil de propagande.
Tout à
du
fait.
Cinéma. Et
fascistes et communistes ont bien compris très rapidement l'usage.
Pas que les communistes, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense à la gauche révolutionnaire.
En Allemagne, Pivert, la gauche révolutionnaire, l'extrême gauche. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui vient au niveau de l'image, ça vient d'où? Ça vient d'Allemagne. Ça vient aussi de la Russie soviétique, d'abord de Lénine, puis après un peu moins sous Lénine parce que c'est vraiment corseté. Mais l'utilisation d'une image, du cinéma, du son, etc., comme outil de propagande, comme outil de faire passer des idées, ça vient de là et nous c'est repris. Et il y a effectivement, comme vous le dites, des gens, Marceau Pivert pour les socialistes, pour les communistes, vous avez Léon Moussinac, des gens comme ça, ou Paul Van Couturier, qui comprennent rapidement l'utilisation de cette image-là.
La vie est à nous, Jean Renoir.
Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Ce sont des camarades, des ouvriers. Ils viennent là le soir répéter. Il y a même des professionnels qui les aiment.
Tu comprends, nous, ce qu'on voudrait, c'est ramener en France le goût de la musique et du théâtre.
Camarade, tu n'es pas seul. Au plus profond de ta détresse, tu n'es pas seul.
Le ciel est sombre, l'avenir t'apparaît noir, la vie te semble sans espoir. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.
Vous n'êtes pas seul, vous qui croyez désespéré.
La vie pour vous tous sera belle parce que nous le voulons ainsi. Paysans, ouvriers,
chômeurs,
jeunes gens et jeunes filles, fils du peuple, amis,
camarades,
le Parti communiste vous appelle.
Et là, Éric Lafond, on a des caricatures, entre autres, de Blum Torres,
Jean Zay et Édouard Herriot. Alors ça, voilà, c'est, on aurait pu entrer sur les grandes figures avec des photographies, posées, portraits, etc. Nous, on a souhaité entrer par le dessin de presse, pour montrer qu'il y a la photo qui s'impose, mais le dessin de presse est toujours là. La caricature est toujours là. Alors, on la retrouve en affiche, hein, le dessin de Cabrol contre Hitler.
Voilà, donc c'est Hitler avec un...
Ouais, avec un couteau entre les dents. Donc c'est un retournement de la fameuse image proposée par la droite au lendemain de la révolution russe, du bolchevique, le couteau entre les dents. Cabrol, qui est un dessinateur sympathisant communiste, reprend lui cette image-là, il la détourne et il nous montre un Adolf Hitler monstrueux qui fait peur, avec des yeux rouges, le nez rouge et un couteau sur lequel figurent les symboles des organisations françaises.
Voilà, qui serait proche du nazisme.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et avec le
voté communiste.
Et ben oui, mais on est dans une société où l'affrontement verbal, visuel, sonore
est extrême.
Et puis de l'autre côté, on a fait le même autour de la question sociale, et donc là, ça peut parler aujourd'hui de l'actu d'ailleurs, c'est la confrontation sur la réduction de temps de travail. Donc, on a choisi peu de documents, mais des documents assez forts pour l'exprimer. Une affiche patronale contre les 40 heures, qui affiche en gros, les 40 heures c'est quoi ? La misère, voilà, c'est ce qu'on retient.
Ça écrasera le travailleur français.
Bah oui, bien sûr. Ouais. Et contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas un langage de la modernité. Depuis le premier débat sur la réduction de temps de travail, qui date de 1840, la droite française, libérale ou conservatrice, lutte contre toute réduction du temps de travail. En revanche, vous avez la CGT, elle, qui est pour les 40 heures. Donc de l'autre côté, on a l'affiche pro 40 heures. Et au milieu, l'élément décisif. Le mouvement social.
Le mouvement social.
La mobilisation de celles et ceux qui sont concernés par la loi. Donc là, vous avez, encore une fois, des images peu connues, amateurs, d'ouvriers et d'ouvrières en grève. Voilà. Alors, vous avez le mélange des deux. Vous avez celle-ci, là, qui est Citroën. On voit la tour Eiffel, on est quel Javel, c'est facilement reconnaissable, qui est assez connue, qui a été diffusée dans beaucoup d'ouvrages, on a vu la télévision, etc. Et là, en revanche, trois images amateurs, peu connues, voilà.
Oui, c'est cette photo, Éric Lafond, où on voit deux femmes, donc a priori une infirmière et puis une autre femme qui paraît pas être une ouvrière, mais bon.
Ouais, il travaille dans un laboratoire pharmaceutique, mais ça change de l'image virile du bel ouvrier, du beau gabin.
Du beau métallo.
Du beau métallo.
Ou cheminot,
en Marcel, voilà. Alors, qui existe, vous allez le voir, je vous rassure tout de suite, dans l'exposition, mais on voit les deux. Et ça, ce qui est intéressant, c'est le surgissement, si je peux m'expliquer comme ça, des femmes dans la photographie. C'est la photographie qui va rendre possible ça. Les femmes, elles sont là depuis très longtemps. Ceux qui nous expliquent que les femmes sont rentrées un jour sur le marché du travail. Non, les femmes ont toujours été sur le marché du travail, depuis le début de l'aube de l'humanité. En revanche, on les licencie plus vite et plus rapidement que les hommes. Et parfois, on les chasse du travail pour les faire rentrer chez elles, à certaines périodes. Mais elles sont là, toujours au travail. Alors, ce qui est intéressant dans ces photos d'ouvriers amateurs, c'est que on a l'ouvrier, comme on parlait, avec son bleu de travail, sa cotte, sa gampette, son point levé, voilà. Son profil parfois Jean Gamin, et à côté vous regardez, vous avez toute la hiérarchie, voilà, vous avez sûrement le chef d'équipe ou l'employé de l'entreprise, le comptable, etc., qui lui est en costume, en cravate, avec son poing levé. Voilà, et ça c'est ce geste là qui va faire de sorte que l'ouvrier de la base, le 14 juillet 36, quand il passe en dessous de la tribune sur laquelle est Léon Blum, Léon Blum lève le poing, l'ouvrier en bas lève le poing, et le lien est fait. 1936, malgré ce que certains tentent de vouloir faire dire au mouvement, ce n'est pas un mouvement contre le gouvernement, ce n'est pas un mouvement qui pousse le gouvernement, c'est un mouvement qui soutient le gouvernement. Il le soutient. Parce qu'en face, eux, à l'époque, ils ne se trompent pas d'adversaire. Ils savent que l'adversaire, c'est un patronat qui est puissant, organisé, vindicatif et qui veut absolument s'opposer à l'arrêt de son temps de travail et l'augmentation des salaires. Mais comme c'est un patron qui fait de la lutte des classes et de l'idéologie, il comprend et il prend le pouls du mouvement. Il sait que début juin 36, il n'est pas en position de force. Donc il acceptera les négociations à Matignon parce qu'il veut voir le travail reprendre. Les usines sont occupées par les travailleurs en grève. C'est la première fois. Hein ? Voilà. Et certains y voient la main du Parti communiste français pour transformer la France en République de Soviet. Certains décrivent Léon Blum comme un otage des communistes, le Kerensky français, vous savez, toute cette histoire-là. Tout ça, c'est faux. Toutes celles et ceux qui ont travaillé sur les archives du Parti communiste français vous le diront. Il n'y a rien qui amène à considérer que le Parti communiste français, à ce moment-là, joue deux partitions. Il joue une seule partition. Ne pas participer à un gouvernement qu'il soutient, en essayant d'être dans la rue le plus possible. Voilà, c'est tout. Et donc après, vous avez toute une séquence qu'on explique en photographie avec le gouvernement, les accords Matignon, etc.
Donc un petit peu chronologique, justement.
Mais en même temps, redonner le fil d'une histoire. Hein. Les 40 heures, là c'est pareil, les 40 heures ne sont pas quelque chose qui est adopté à cause du mouvement de grève. C'est les 40 heures, la réduction de temps de travail figure dans le programme du Front Populaire dès le mois de janvier 1936. Léon Blum, très rapidement, il dit à ceux qui s'opposent, vous avez vu là ? Moi j'ai un mouvement avec moi, donc on va faire passer les lois. Et on est majoritaire à l'Assemblée nationale en plus. Donc c'est ça, là, c'est une synergie, une articulation entre un mouvement et un gouvernement. C'est la seule et unique période dans notre histoire.
Amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République.
Donc après, on poursuit tout cet espace avec un espace aux couleurs rouges, voilà, parce que le rouge, c'est la couleur du mouvement ouvrier. Avec là, cette fois, pas mal de photos amateurs, inconnues, qui sont rentrées dans les collections cette année ou l'an dernier. D'accord. Voilà.
Qui sont rentrées dans vos collections ?
Dans notre collection et puis dans une collection d'un centre de recherche qui s'appelle Radar, rassembler et diffuser les archives des révolutionnaires, ça s'appelle. La personne qui s'occupe de ce centre, Frédéric Spellman, a fait l'acquisition l'an dernier d'une centaine d'images amateurs, personne n'a jamais vu, de grèves et d'occupations dans toute la France, avec des corporations d'ouvrières et d'ouvriers différents.
Très différent. Exemple, alors grève chez Chanel.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est celle-là.
Ben
qui...
oui.
Mais bon, les couturières, oui.
Alors ouais, voilà, la grève chez Chanel. Alors, là, ça intéresse. On a choisi parmi d'autres photos celle-ci parce qu'elle est très intéressante. On voit un dispositif photographique qui met au premier plan les femmes en grève. Mais vous avez vu au fond, vous avez un homme. C'est le chef de l'atelier, lui. Voilà. Là, par une image, par une photo, nous, là, les historiens de l'image, on dit souvent, la photographie, comme la pelure dactylographiée ou l'archive, elle fait partie d'une possibilité de commenter et d'interpréter l'histoire. Et puis, ces photos avec des cartouches de souvenirs d'une grève, c'est intéressant.
Donc, il y a cette idée qu'il faut patrimonialiser, enfin, en tout cas, oui, garder un souvenir, photographier ce moment-là.
Voilà.
Quoi.
C'est incroyable. La photographie, c'est la revanche sur la mort. On est éternel avec la photo, on se prend pour l'avenir, donc on arrête le temps, c'est là qu'on est Dieu, hein, on arrête le temps, on le fige et on va le préserver si on s'arrange pour préserver la photo. Donc on lutte contre beaucoup de choses là, et eux, ils pensent pas à tout ça naturellement, ça serait trop compliqué, mais ils ont, comme vous dites, voilà, on va mettre le souvenir. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on découvre les albums de famille, on a les pages des baptêmes, des mariages, des anniversaires, mamie à la plage, etc. Dans les bois, puis hop, on a une planche, les grèves. Et puis ça recommence derrière, alors après il y a la plage, les congés payés, puis on retombe sur les anniversaires, les baptêmes, et hop, on retombe sur des grèves. Voilà, il y a que 36.
Ça fait partie de l'histoire de la famille aussi, voilà.
Oui, ça fait partie de l'histoire des familles françaises. Quand on pose la question aux Françaises et aux Français, 36, c'est quoi pour vous ? Les premières réponses, c'est les vacances, congés payés. Et la deuxième réponse, c'est les grèves et occupations. D'abord, en grande partie. Donc on poursuit cette déambulation dans l'exposition. On a quand même fait un éclairage sur la question paysanne, dans une France qui est quand même dominante agricole et paysanne. Vous avez un éclairage sur l'immigration en France via le cas des Italiens à Montreuil. Voilà, première immigration, hein, quand même.
Enfin, les Scanzaroli.
Voilà, la famille Scanzaroli à Montreuil.
Qui a fait les photos, en fait, c'est ça?
Alors, c'est un album photographique qui appartenait à René Scanzaroli, accordéoniste, que l'on voit ici, là, sur la photo, voilà. Et qui est militant communiste français, mais parti avec sa famille d'Italie pour fuir le fascisme. Voilà. Et donc, on connaît ce parcours. Hein. Il est répété pour plusieurs d'entre eux, les Italiens. Tous les Italiens ne sont pas communistes en France, mais une bonne partie de ceux qui arrivent dans cette banlieue.
Mais ils ont fui le fascisme, alors.
Ils ont fui le fascisme. À la base, pour certains, ils étaient communistes, d'autres socialistes. Donc, beaucoup vont arriver et vont réintégrer la SFIO de Léon Blum ou le parti de Torres. Donc, mais là, ce qu'on montre à travers ces images, c'est à la fois l'engagement politique, mais à la fois le lieu de travail, là, c'est la maçonnerie des maçons, la sociabilité avec les cafés. Voilà. Et puis, vous avez, comme des portraits de familles françaises.
Des grandes familles, voilà.
Le dimanche, on s'habille, voilà, et on pose pas loin d'un parc. Voilà, on sent dimanche, hein, on se fait beau, parce que tout le reste de la semaine, on porte les habits de l'usine, qui sont mauvais, qui sont sales. Et donc, le dimanche, on s'habille proprement, hein, on va pas à la messe. Pour eux, ils vont pas à la messe, hein. Mais,
mais on va au parc et on
oui, fait un pique-nique. Oui, on fait des pique-niques, etc. Voilà. Donc, ça, c'est immigration. Et puis là, un focus. Là, on a un focus qui fait partie des trois focus d'exposition. La question des femmes, hein, donc je vous disais au tout début, il me semblait important de revenir au-delà du seul fait historique de l'annulation de ces trois femmes au gouvernement.
X421, Suzanne Lacor, message de Noël, 1936.
En cette joyeuse fête, ayez encore une pensée pour vos petits frères malheureux, à qui manque la santé, les jouets, la tendresse. Petits infirmes et malades, abandonnés, orphelins, petits espagnols dont les papas meurent dans une guerre atroce. Noël est votre fête, mes chers enfants. Nous la voulons joyeuse et belle pour vous tous. Nous vous aimons de tout notre cœur, enfants de Paris et de la France entière. Et nous travaillons à faire de vous tous des enfants sains, bons et heureux. Tendez vos efforts en ce sens, fillettes et garçonnets. La France sera demain ce que vous la ferez. Préparez-vous dès aujourd'hui à hâter pour elle et pour le monde la victoire d'une civilisation supérieure. Vive l'espérance que vous portez en vous, mes chers enfants. Vive l'avenir. Tous mes voeux pour l'année nouvelle, pour vous et pour les vôtres. Noël, Noël.
Donc on voulait replacer les femmes dans leur engagement politique. Nous avons une série de photographies qui vous montrent les femmes engagées dans les milieux communistes, dans les milieux féministes, dans les milieux antifascistes, parfois entre elles, parfois avec des hommes. Ici, on reconnaît André Malraux. Voilà. Ici, vous avez Suzanne Lacor, qui est donc nommée au gouvernement, militante socialiste, hein, question de l'enfance. Alors voilà, vous savez la phrase de Louise Weiss. Hein, quand
trois hirondelles ne font pas le printemps.
Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, il ne faut pas en rester là. Elles sont effectivement nommées par le gouvernement de Léon Blum, mais l'année d'après, elles ne sont plus là. Elles ne sont déjà plus là. Et puis, c'est le paradoxe des Français, qui n'est pas compris à l'étranger. Il n'y a que les Français pour nommer des femmes dans un gouvernement alors qu'elles n'ont ni le droit de vote et ne sont pas éligibles. On le fera pareil avec les représentants des colonies, et jusque très tardivement. En 1946, vous avez le trombinoscope de l'Assemblée nationale, il y a marqué un tel député d'Alger, il y a marqué en dessous « non-citoyen ». Donc voilà toutes ces images, voilà un zoom, un focus. Et donc on n'a pas pu s'empêcher d'acheter cette photo à l'AFP, pour l'exposer ici, où il y a les femmes avec la banderole « La Française va voter » et juste au-dessus, vous avez le 31e congrès du Parti Radical Socialiste, le parti qui s'oppose au Sénat au droit de vote des femmes. Voilà, ça c'est une petite méchanceté, mais elle est historique, elle est photographique et elle est historique.
Alors il y a les colonies aussi, vous faites focus, parce deuxième, que ça fait partie aussi voilà, un peu des points.
Deuxième focus important de cette exposition, qui rencontre beaucoup le public, hein, le public dit « Ah, c'est bien d'avoir mis ça, on ne l'avait pas vu », etc. Donc là, vous avez tout un ensemble d'images principalement des photographies. Celle-ci connue, qui provient de l'agence Roger Violet. Donc on est de nouveau le 14 juillet 1936 à Paris, délégation tunisienne, qu'on reconnaît bien avec le Chechia et puis l'étoile et le croissant, ici. Et puis, beaucoup moins connue, c'est deux photographies de Marcel Cerf, deux militants algériens de l'étoile noire nord-africaine.
Voilà, alors Messali Hadj, qui était très en lien avec notamment Marceau Pivert et la gauche révolutionnaire.
Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, si c'est pareil, on n'est pas pour défendre les légendes. L'étoile nord-africaine signe le programme de Front Populaire, s'associe au Rassemblement Populaire, mais en 1937, elle est dissoute. Pourquoi ? Parce que Messali Hadj et d'autres militants nationalistes algériens prônent l'indépendance. Là, on est là au cœur des limites du Front Populaire. Les limites qui sont de l'époque, contextuelles. Hein, et aucun des partis du Front Populaire n'ira à l'encontre des décisions. Pas même le Parti communiste français, qui a rompu avec sa ligne anti-impérialiste à partir de 1934, surtout 1935. Voilà. Il est dans l'application de la conception stalinienne de dire le divorce n'est pas une obligation. Voilà, donc c'est son grand discours en Algérie, la nation est en formation, il faut qu'elle reste dans la République française, et puis quand ils seront grands, on ne dit pas ça comme ça naturellement, mais quand ils seront adultes, majeurs et grands, ils pourront peut-être ils pourront proposer l'indépendance. Et puis à ce moment-là, on en discutera. Mais c'est pas comme ça que les choses se posent, c'est pas au peuple soumis de discuter de leur indépendance. Ils la prennent ou ils la prennent pas, ça c'est De Gaulle qui avait dit ça. Vous voulez l'indépendance, prenez-la.
Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même.
Léon Blum, Luna Park, 6 septembre 1936.
Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas ? Vous avez entendu l'autre soir ? Vous avez entendu l'autre soir au Vélodrome d'hiver ? Les délégués du Front Populaire espagnol, je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous ?
Puis pour continuer, donc on ne pouvait pas faire une exposition sur le Front Populaire sans parler de l'Espagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis au cœur de l'exposition. Ça coupe l'exposition en deux. C'est dans l'espace le plus restreint des différentes salles. Il y a une vitrine au milieu pour gêner le visiteur, les visiteuses. Il y a des couleurs qui sont des couleurs symboliques. D'un côté, le rouge et le noir de la Révolution espagnole, parce que nous, on est Jean Vigreux, Frédéric Cépède et moi-même, nous sommes sur une approche pas uniquement de la guerre civile espagnole, on est sur une approche qui est guerre et révolution en Espagne. En face, vous avez, mais face à face, une deuxième ligne avec l'URSS de Staline qui fait face à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie. Et sur le côté, entre les deux, vous avez un panneau autour de la question de intervention ou non-intervention en Espagne, avec deux affiches d'un inconnu, on n'a toujours rien sur lui, Pierre Mel, il s'appelle, et qui dit aux Français, grosso modo, le message suivant, si vous laissez le franquisme ou ceux qui les aident, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, comme on le montre l'affiche là-bas, on voit un soldat de la Wehrmacht, si vous les laissez gagner en Espagne, ils franchiront les Pyrénées, d'où le titre des deux affiches, Pyrénées. Et l'affiche dit, Français, voudrais-tu que ceci soit possible demain ? Donc là, on est au cœur du débat, intervention, non-intervention. Et donc,
débat qui n'est toujours pas, en fait, Éric Lafond. C'est aussi un débat encore historiographique, qui n'est pas totalement pas réglé, mais qui suscite, j'ai l'impression,
les historiens,
même entre historiens, sur cette question de la nécessité ou non de l'intervention en Espagne. De toute façon, bon, on ne fait pas l'histoire avec des suppositions non plus, mais...
Non, le métier d'historien ne peut pas nous amener à dire il aurait fallu faire ceci. Nous, on laisse ça aux politiques. Ce n'est pas par mépris que je dis ça, hein. Mais nous, on n'est pas là. Voilà. Moi, après, j'ai, en tant que citoyen engagé, j'ai mon opinion. Mais l'historien, lui, il va tenter, ce qui est déjà très compliqué, à tenter de comprendre quelles sont les décisions qui ont été prises, comment elles ont été prises, qui a pesé, qui n'a pas pesé, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités et pourquoi elles n'ont pas été prises. C'est ça le travail de l'historien. Ça, c'est un travail très long, très compliqué. Il faut confronter les archives, les témoignages, etc. Certains nous disent, là, vous faites de la politique ou pas de l'histoire. Ah bon ? Alors, parce qu'on parle des réfugiés.
Même voilà. Les réfugiés attendus aujourd'hui, ce soir, donc.
Oui, ben oui, ce soir, c'est un journal communiste. J'y peux rien, moi. C'est Louis Aragon. Mais lui, il parle des réfugiés qui arrivent à la frontière. Voilà. Et donc, on voit les petits enfants qui arrivent à Prats de Moyo, la frontière pyrénées-orientale, et qui sont accueillis par des municipalités ouvrières, socialistes, communistes, qui sont hébergés, nourris, etc. Et puis, on va plus loin, parce que l'histoire se termine très mal pour le déshonneur de la France républicaine. C'est que ces réfugiés, au bout d'un moment, et notamment les républicains espagnols, on va les parquer, puis les concentrer sur les plages du sud de la France. Et le terme n'est pas un terme des historiens, n'est pas un terme des militants politiques. Le terme de camp de concentration, il est employé par le gouvernement de l'époque, qui n'est plus le gouvernement de Front Populaire, mais le gouvernement d'Albert Sarro. Voilà. C'est pour ça qu'on a rappelé dans ce petit cartel, qui suscite beaucoup de discussions, l'usage par le gouvernement français du terme de concentration. Alors là, c'est pareil, attention, on reprend le rôle d'historien en disant, attention, camp de concentration, on est en 1939-40. On n'est pas en 1945 avec toutes les horreurs qui s'est passées. Et de toute façon, la politique d'internement française ne vise pas à exterminer ou à éliminer les républicains espagnols. Elle les considère comme dangereux et elle les parque. Voilà. Ce qui est, pour un tout républicain, tout citoyen de cette République, un déshonneur pour notre pays d'avoir fait ça. Pour compliquer tout ce que je viens de vous dire sur l'Espagne, eh bien, on a mis au milieu une vitrine sur les procès de Moscou et le stalinisme. Parce que ça vient dans le débat français. Chez les communistes, il n'y a pas de discussion. Tout le monde pense, chez les communistes, que les procès de Moscou, c'est juste, c'est légitime, c'est bien. Nous, on a eu Mirabeau, Lafayette et Danton, les traîtres, et on les a exécutés. Donc, eux, ils font la même chose, parce qu'ils ont vécu un grand événement, c'est la révolution d'octobre, etc., etc. C'est leur explication. Mais les débats ont lieu chez les socialistes, et les socialistes ont dit, on ne peut pas fragiliser l'Union soviétique en l'accusant sur les procès de Moscou, parce qu'on risque de l'affaiblir. Et donc, si on l'affaiblit, on affaiblit le camp antifasciste. Et donc, ils sont pris dans cette tenaille idéologique dont ils ne sortiront pas. La minorité qui en sort, elle publie des petites brochures, des petits bouquins. Ils publient tout. Hein. Rien n'est dissimulé et caché. Ça, c'est 36. Léger doute en 37. Et il faut attendre le troisième procès en 38, quand Staline commence à liquider les états-majors de l'armée rouge, pour que là... À gauche, chez les socialistes, chez les radicaux, le doute soit beaucoup plus que permis. Mais le Front Populaire, il est fini en 38. C'est terminé. Il n'y a plus de Front Populaire. Mais...
Donc on voit là, voilà, il y a Léon Trotsky, évidemment, hein, qui est la figure d'opposant par excellence. Hein.
Donc on a une bande d'archives où on voit Thorez, qui est très bon homme au 14 juillet, très sympathique, etc., qui éructe sur les trotskistes en France. Alors que les trotskistes en France, c'est un faible courant. Hein. Il menace en rien la République ou voilà. Et ça, c'est pas, bon, faut le dire quand même, mais les procès de Moscou, la gauche anglaise et surtout américaine, elle s'en emparera.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis.
Et puis le public arrive et respire un peu mieux, là, dans cette grande salle carrée, dédiée aux congés payés, à la culture et aux loisirs. Donc là, vous avez une couleur beaucoup plus chaude qui rappelle soit un fruit ou le soleil, naturellement. Vous avez des photographies amateurs ou qui montre eh ben, ce nouveau temps auquel est consacré au repos, à la détente, à la paresse. Hein. Les photos des militantes et des militants ouvriers là, qu'on voit là, qui sont allongés dans l'herbe.
De Montreuil au pique-nique.
De Montreuil qui pique-nique, qui sont dans la détente. C'est-à-dire, ils ne lèvent pas le poing, il n'y a pas les drapeaux, il n'y a pas les pancartes, il n'y a rien de tout ça. Et ça, ces photos-là, ces attitudes-là, n'ont été possibles parce que la politique a été faite. Quelle politique ? C'est-à-dire la politique de l'amélioration des conditions de celles et ceux qui travaillent. Donc, réduction de temps de travail et congés payés. Et qu'est-ce que font ces gens-là ? Eh bien, ils vont au théâtre. Parce que les organisations ouvrières leur ouvrent les portes des théâtres. Ils vont dans les bibliothèques, ils vont dans les musées, ils dansent, ils regardent du cinéma, ils lisent, ils se cultivent. Et ça, dans cette salle-là, on a cette relation entre congés payés, réduction de temps de travail, culture et aussi cette liberté de vivre, de s'étaler sur la plage, de poser, voilà, d'être belle, d'être beau, de se rapprocher, on voit les corps qui se rapprochent, que ce soit les militants ouvriers avec leurs gampettes, là, allongés par terre, hommes et femmes, vous voyez certaines attitudes qui sont ici. Et puis là, une famille plutôt classe moyenne.
Un grand panneau, hein, Éric Lafond,
oui.
Là.
Voilà.
Alors vous avez tout le mur, voilà. Et vous avez fait
Quand on nous a apporté ces photos,
une mosaïque de photos.
Voilà. C'est des photos qui sont extraites d'un album de famille en petit format. Voilà. Alors un de nos décorateurs qui nous a dit mais pourquoi on ferait pas un mur d'images avec un coffrage. Alors, on a dit banco. Donc il a fait cette proposition-là et on voit là ici une famille française classe moyenne. À Oulgat, dans le Calvados, au bord de l'eau, on voit qu'ils ont l'habitude d'être à la plage. Hein, les ustensiles, la pelle, les râteaux, la chaise longue, on voit les vêtements.
Les maillots de bain. Hein,
et alors là, ça c'est très intéressant, comparativement aux ouvriers qui arrivent sur les plages du Calvados, pense à Deauville. L'ouvrier, quand il arrive à Deauville, se payer son billet de train, il a pu, mais rester à Deauville pour plusieurs jours, il n'a pas les moyens. Donc il arrive et il a son gros pantalon, sa chemise, sa cravate. La femme est pareille. Alors il lève les pantalons sur la plage, il va dans l'eau. Il n'a pas l'habitude. Puis en plus, il faut pas l'oublier, mais ça c'est pas être mal poli avec les gens de Deauville. Mais quand il arrive sur la plage, les autres ils le regardent. Et d'où sort le message c'est les salopards en casquette qui nous envahir quoi.
Et ça veut dire quoi, Éric Lafond? Ça veut dire que c'est une classe sociale qui avant le Front populaire prenait des vacances, donc quoi, c'est la classe moyenne.
Oui, parce que ce qu'on rappelle dans cette salle, c'est que Léon Blum, le gouvernement et la majorité de gauche généralisent les congés payés. Hein. Les premiers congés payés en France, c'est 1853, hein, c'est le Second Empire. Et en 36, depuis très longtemps, les employés de banque, les employés d'assurance, les cheminots bénéficient de congés payés. Les employés du métropolitain. Mais ceux qui n'en bénéficient pas, c'est la classe ouvrière. Et Léon Blum, il généralise le principe de congé payé. Il rattrape un retard. Hein. L'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, le Danemark, la Norvège, tous ces pays-là ont déjà des congés payés. 85% des ouvriers allemands bénéficient de congés payés dès 1924 dans la République de Weimar. L'Allemagne, c'est pas uniquement le monstre Adolf Hitler, c'est aussi une grande république, hein, avec des droits sociaux depuis très longtemps. Voilà, inscrits dans le code du travail, etc. Et donc, nous, on voulait montrer cette France aussi, qui existe, ces deux Frances, la France des ouvriers qui bénéficient des congés payés et qui prend ses projets payés, avec celles et ceux qui ont l'habitude d'en prendre.
Depuis 15 jours dans une clairière, Adam devint très amoureux de Madame Ève, notre mère, que deux choses vont deux par deux. Si le deux en arithmétique est le chiffre le plus charmant de tous les sports que l'on pratique, le temps d'aimer assurément le sport rêvé pour les amants. Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est toi qui m'entraînes, c'est moi qui t'emmène. Et lorsque tu donnes un bon coup de pédale, je pédale, en même temps ça nous emballe. Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est bon pour l'hygiène et ça nous promène. Je t'aime en avant les cheveux au vent, on s'aime en faisant du tandem. Je t'aime en faisant du tandem.
Alors le lien avec les images qu'on vient de voir de la détente, du repos, moi, ça c'est un avis personnel, mais les deux gars, Jean Vigreux et Frédéric l'acceptent parfaitement. D'ailleurs, ils sont très contents qu'il y ait cette salle aussi. C'est Pierre Jamais, c'est un photographe qu'on connaissait pas beaucoup, enfin moi que je connaissais pas du tout, qui m'a été révélé par l'exposition à Montpellier et à Clermont-Ferrand de Pierre Boran. Et Pierre Jamais, c'est un indépendant. Il n'est pas carté dans un parti politique. Il fréquente les socialistes, il fréquente les communistes, mais il n'est pas carté. Il chante. Et il a un groupe qui s'appelle les Quatre Barbus.
C'est lui qui
voilà,
chante.
Les ouais, Quatre, ça, les ouais, quatre Barbus. Il est inscrit dans un. Il fait du naturisme. Et puis il fait ses photographies. Et là, on voit bien qu'il y a une technique maîtrisée de la photographie, de l'appareil. Il y a un œil bien précis, il y a une esthétique, il y a une géométrie qui s'exprime, il y a des compositions qui sont très belles, voilà, et on a ce photographe qui prend plaisir, on le voit à travers ces images, à prendre les jeunes hommes et les jeunes femmes, à prendre les individus, ces corps déshabillés, même nus, ce qui pose un gros problème à cette époque-là. faut se replacer dans l'époque de 36, on a une société française où l'Église catholique est très puissante encore hein, dans les mentalités. Je vous parle même pas, où l'homosexualité est considérée encore, et ça sera encore pour beaucoup de temps, comme une maladie, une déchéance. Hein, voilà. Donc, on n'est pas dans l'image ouvrière, militante,
un autre registre.
On est dans un autre registre, avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont des militants aussi. Pierre Jamais, il était à la chorale de l'AEAR, l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires. Mais là, les images qu'il nous montre...
C'est des belles compositions. Alors, oui. Juste pour, si on peut le décrire un petit peu, Éric Lafont. Il y a un trio de jeunes filles, là, de marcheuses, qui se tiennent par l'épaule et qui marchent joyeusement sur une route de
toute
campagne.
Toute l'allusion aux marches, aux randonnées de l'époque.
Ouais.
Toute cette idée du corps, du bien-être, de l'effort physique, mais de l'effort maîtrisé, voulu, pas obligé, pas embrigadé. Voilà. On est à l'inverse des photographies, des totalitarismes qui nous montrent des collectifs humains ordonnés. Encadré, en caserne.
Puis c'est la thématique, auberge de jeunesse, les colonies de vacances, c'est ce que aussi va favoriser, évidemment, le ministère de Jean Zay et Léo Lagrange.
Voilà, alors on a parlé de Léon Blum, on a parlé de Jean Zay, le troisième personnage qui nous semble important dans cette séquence historique, c'est la politique culturelle de l'organisation des loisirs par Léo Lagrange. Et là, c'est pareil, il faut toujours le lier, y compris avec le lien avec le contexte social et le mouvement social. La preuve que les 40 heures, les congés payés, c'est pas le mouvement social qui a obligé Léon Blum à le faire, c'est que au lendemain de la victoire, Léon Blum, il y a des archives qui le montrent, discute avec Léo Lagrange pour lui dire « tu seras un ministre qui organisera les loisirs ».
Et il faudra organiser ça, parce que ça va généraliser.
Voilà. Gros, et l'organisation de la culture par Léo Lagrange, ça se traduit par la mise en place de maisons, des auberges de la jeunesse. Voilà, qui est le pendant des maisons de la culture qui sont éparpillées en France et qui, elles, sont à l'initiative des communistes, notamment Louis Aragon. Voilà, ces deux mouvements se rencontrent. Et donc, cette jeunesse, qui n'a pas beaucoup de moyens, elle va bénéficier de tarifs qui permettront de partir en vacances, d'aller à l'auberge de jeunesse, et puis de bénéficier sur place de jeux d'eau, de pratiques sportives collectives ou individuelles. Voilà. Et là, on voit les corps qui se rapprochent. Voilà. Donc ça, c'est un bel espace qu'on a consacré à Pierre Jamais. Donc un travail magnifique de photographie de cette époque-là.
Bon, merci.
Pour cette promenade au musée d'histoire vivante de Montreuil en région parisienne, une exposition qui dure jusqu'au mois de janvier. Alors ce musée d'histoire vivante, donc c'était une balade qui était conçue et réalisée par Séverine Yattard et Séverine Cassard. L'émission de ce jour, comme d'habitude, était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet, à la technique aujourd'hui Clément Daté et à la réalisation Françoise Camard. Nos amis de Concordance des Temps demain vous proposent de réfléchir avec Benoît Descamps au boucher du Moyen-Âge, est-ce une puissance sans contrôle? Et quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi pour la bande dessinée, une histoire de la bande dessinée à l'occasion de la publication sur France Culture d'un feuilleton consacré au Lotus Bleu, donc à partir de l'œuvre de Hergé. Et on parlera d'Hergé, ça sera mercredi prochain, mais on parlera également de Pilote, mardi, dans le documentaire de la Fabrique de l'Histoire.